L'été, on décapitalise.
C'est la question du cap.
Majuscule. Manifeste. Empire. Marchandise. Position, pouvoir. Direction. Ville.
Tête.
Siège.
Direction.
Cap.
Colonne.
Empire.
Conducteur.
Capitaine.
Hiérarchie.
Caporal.
Pouvoir.
Position.
Cible.
Caput.
Cap.
Cap.
L'été, on décapitalise. À contre-cap, décapiter le cap du capital. Capituler le cap de la capitale.
Cap ou pas cap?
L'été, on décapitalise.
Siège. Ville. Empire.
Car il y a la règle et il y a l'exception. Il y a la culture qui est de la règle. Il y a l'exception qui est de l'art. Tous disent la règle. Cigarette, ordinateur, t-shirt, télévision, tourisme, guerre. Personne ne dit l'exception. Cela ne se dit pas. Cela s'écrit. Flaubert, Dostoïevski. Cela se compose. Gershwin, Mozart. Cela se peint. Cézanne, Vermeer. Cela s'enregistre. Antonioni, Vigo. Où cela se vit, et c'est alors l'art de vivre. Srebrenica, Mostar, Sarajevo. Il est de la règle que vouloir la mort de l'exception. Il sera donc de la règle de l'Europe de la culture d'organiser la mort de l'art de vivre qui fleurit encore à nos pieds.
Empire. Pouvoir.
Manifeste.
Propriété.
Valeur.
Culture. Économie. Art.
Valeur.
Empire.
À contre-cap, pour décapiter le cap du capital. Capituler le cap de la capitale.
Que pourrait-il advenir d'une telle émission? Rien.
Ce que nous voudrions, c'est incapaciter le cap de la décapitation.
Bernard Stiegler, bonjour.
Bonjour.
Bernard Stiegler, vous êtes philosophe, directeur de l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou, cofondateur de l'association Ars Industrialis. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont La technique et le temps en 3 tomes, De la misère symbolique en 2 tomes, Mes créances et discrédits en 3 tomes, et puis vient d'être tout dernièrement réédité en format poche De la misère symbolique, et vient de paraître aux éditions Flammarion, Pharmacologie, du Front National. Alors on est avec vous par Skype, j'espère que vous nous entendez bien.
Très bien.
Alors à travers vos ouvrages, on accède à une lecture de la crise économique, de la crise du capitalisme, de la crise politique, comme une crise plus globale du vivre ensemble. Et vous précisez qu'on ne peut pas faire l'économie d'une pensée de l'esthétique pour penser le vivre ensemble. C'est-à-dire que vous développez cette idée que la question politique est une question esthétique et réciproquement. J'aurais aimé vous entendre un peu plus davantage à ce sujet.
Écoutez, pour clarifier ou préciser ce point de vue, il faut faire un petit peu d'histoire économique et industrielle. Le monde occidental a muté à travers les États-Unis en une société de production de masse qu'on appelle le consumérisme, ou le mode de vie américain. Le problème qui s'est posé dans cette société-là, ça a été de vendre des marchandises. Contrairement à une idée reçue aujourd'hui, toute l'innovation qui est produite par le monde industriel, en règle générale, les sociétés n'en veulent pas, ni les individus, ni les groupes. À partir de là, le capitalisme consumériste américain a développé des industries culturelles qui ont pour but de modifier les comportements et de créer dans les sociétés et chez les individus des comportements de consommation que spontanément ni les sociétés ni les individus n'auraient adoptés. Autrement dit, c'est ainsi qu'est né le marketing. Le marketing appuyé sur les industries culturelles. Et les industries culturelles elles-mêmes fonctionnent par une captation de l'attention et du désir des individus à travers toutes les techniques de sollicitation de l'attention que, par exemple, la musique permet de mettre en œuvre, le spectacle, le théâtre, par exemple, ou le cinéma permettent de mettre en œuvre, etc. Ce que je veux dire en disant cela, c'est que au début du XXe siècle, en Amérique du Nord, et il faut rappeler ici qu'en 1912, un débat a lieu à Washington au cours duquel un sénateur américain dit « Trade follows films », c'est-à-dire le cinéma est la condition du développement d'un grand marché intérieur puis d'un grand marché extérieur, c'est ça qui est en jeu, en 1912, c'est-à-dire que avant même la première production d'un long métrage qui est vraiment le début du cinéma, à savoir « Naissance d'une nation » par Griffith, déjà les sénateurs américains ont compris que le cinéma allait être la condition de constitution de vastes marchés. Je ferme la parenthèse. Donc, à partir du début du XXe siècle, en Amérique du Nord, quelque chose naît que, bien plus tard, 30 ans plus tard, Adorno appellera les industries des biens culturels, et qui va créer quelque chose d'absolument nouveau. La chose absolument nouvelle, c'est que toute la vie esthétique des individus va être gérée de façon industrielle, avec des moyens industriels, et avec le but de capter le plus longtemps possible leur attention pour les soumettre à quoi ? Eh bien finalement, à ce que Sigmund Freud appelait des processus d'identification. Je vais devoir m'identifier à des héros de cinéma, je vais m'identifier à des marques à travers des musiques, par exemple la musique des Bad Dim ou des Hollywood Chewing Gum, etc., etc. Et là où les gens, jusqu'alors, avaient un rapport, je dirais, appelons ça aux événements esthétiques, c'est-à-dire aux moments exceptionnels, que ce soit dans le cadre des offices religieux, des fêtes profanes, ou des fêtes politiques, ou d'autres contextes de ce type, qui étaient des moments d'exception, donc, où on assistait à un spectacle, on assistait à un concert, où on participait à un concert, etc. Eh bien, à partir du début du XXe siècle, la perception des êtres humains va être sollicitée de plus en plus régulièrement par des propositions de nature esthétique.
C'est-à-dire qu'on...
Oui,
c'est-à-dire qu'on est un peu passé, non, de la question de l'expérience esthétique à un conditionnement esthétique, en définitive.
Oui, en effet, il s'agit effectivement de passer de l'expérience au conditionnement. Et le mot conditionnement, il faut le prendre au sens fort de conditionnement quasi pavlovien, à un moment donné. Hein.
Pavlovien, c'est-à-dire ?
Bah, pavlovien, c'est-à-dire soumis à des comportements réflexes. Vous savez, le chien de Pavlov, on lui présente un beefsteak 2 minutes ou 30 secondes après avoir fait sonner une sonnette. On fait ça un certain nombre de fois, et au bout d'un certain temps, on fait sonner la sonnette, on ne met pas de beefsteak, il salive, même s'il n'y a pas de beefsteak. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un conditionnement pavlovien. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle le neuromarketing, actuellement, par exemple, qui se développe beaucoup, fonctionne tout à fait sur cette base-là, pour essayer de contrôler les systèmes réflexes des individus. Alors, pour revenir à cette différence conditionnement-expérience, qu'est-ce que l'expérience esthétique ? Pour ma part, je soutiens que tout cela a été rendu possible, l'apparition des industries culturelles, parce que des technologies, ou ce que j'appelle une organologie industrielle de la perception, sont apparues, qui ont permis, par exemple, comme disait Béla Bartok, d'écouter de la musique sans savoir en faire. Ou d'écouter de la musique sans participer en quoi que ce soit à l'événement musical. Béla Bartok, en 1937, dans le cadre d'une interview qui lui est faite par une radio, d'ailleurs, explique qu'il ne faut pas écouter sa musique à la radio, ou alors si on l'écoute à la radio, d'accord, c'est très bien, mais une condition, c'est de lire la partition en même temps. De toute façon, vous n'entendrez rien parce que le son est très mauvais, mais vous aurez une représentation, comme on pourrait dire aujourd'hui, une photocopie de Van Gogh, nous ne montrera jamais le tableau, mais donc lui, il dit, pour écouter ma musique, il faut aller au concert. Mais bon, vous pouvez toujours écouter ma musique à la radio, à condition de lire la partition. Pourquoi est-ce que je souligne ce point ? C'est parce qu'en fait, lire la partition, qui sait lire la partition de Bartok ? À cette époque-là, beaucoup de gens lisaient les partitions. Parce que si vous alliez dans les librairies de Paris, par exemple, vous aviez un rayon de partitions. Et les gens qui écoutaient de la musique, hein, qui allaient dans les concerts, qui allaient voir des opéras, en général jouaient du piano ou du violon ou chantaient. Et ils lisaient. Et c'est tellement vrai que en 1880, l'Opéra de Paris, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle production à l'opéra, envoyait une interprétation de la partition, une réduction pour piano, pour que les gens puissent se préparer à écouter la musique.
C'est ce que vous appelez la participation au symbolique, voilà. D'une certaine manière.
Voilà, exactement. Et ce que je veux dire, c'est que les industries culturelles, telles qu'elles se sont développées depuis le début du XXe siècle, ont créé ce que j'appelle une prolétarisation de l'expérience esthétique. Prolétarisation, chez moi, ça veut dire perte de savoir. Et ce que je veux dire en disant cela, c'est que cette situation de non-participation, que j'appelle la consommation culturelle, qui produit ce que je considère être du consumérisme culturel, et qui engendre ce que Hannah Arendt appelle le philistinisme, c'est-à-dire des gens qui ont un rapport de consommation, comme les bourgeois que déjà Hölderlin appelait des philistins, c'est-à-dire qu'ils sont des gens qui n'y connaissent strictement rien, mais qui vont au musée pour aller faire pisser leur chien, comme disait Jean Clair. Comme autrefois, on allait à la messe pour faire pisser son chien. Eh bien, ce sont des gens qui ont perdu, en fait, le rapport à la chose. Alors, moi, je soutiens que c'est un moment transitoire. Mais c'est un moment transitoire, mais c'est un moment extrêmement ravageur. Parce que, par ailleurs, ce qui fait, si on lit André Leroy-Gourhan, et là, je reviens à votre question de l'être ensemble, André Leroy-Gourhan, lui aussi, a écrit dans un livre majeur que tout le monde doit lire, qui s'appelle « Le geste et la parole », c'est dans le deuxième tome, je crois, et André Leroy-Gourhan, qui fait une analyse, d'ailleurs, des industries culturelles, lui aussi, en 1965, il étudie la radio, la télévision, le cinéma, comment ça fonctionne, et où il dit « il faut participer pour sentir ». Celui qui ne participe pas à un livre, par exemple, à un roman, en imaginant les scènes qu'il lit, il ne sent rien. Celui qui ne participe pas à un phénomène musical, par exemple en le projetant à l'intérieur d'un fête religieux ou à l'intérieur d'un fête festif ou à l'intérieur d'une scène de danse, etc. Je soutiens aussi que la nouvelle vague, qui a été une révolution du cinéma d'ampleur planétaire, est née de la même situation. Lorsque Truffaut et Godard et quelques autres qui avaient fait les Cahiers du cinéma et qui étaient donc une revue de critiques de cinéma, passionnés et fortunés d'ailleurs, parce que tous ces gens-là étaient des enfants de la bourgeoisie, donc avaient du temps. Lorsque ils sont allés à la Cinémathèque de France, qui à l'époque était portée par, comment s'appelle-t-il, je n'arrive plus à retrouver son nom maintenant.
Langlois.
Langlois, exactement, Henri Langlois. Qu'est-ce qu'ils ont appris? Ils ont appris à regarder des films. Langlois et un certain nombre d'autres, Jean Douchet et des gens comme ça, avaient une certaine conception de ce que c'est que le regard porté sur un film, et ils en sont arrivés à la conviction, à mon avis justifiée, que pour vraiment regarder un film comme il faut, il faut être capable de faire des images.
En définitive, vous décrivez une société des amateurs.
Oui, je décris une société d'amateurs. C'était une société dans laquelle il y a de l'amour, parce que les amateurs, ce sont ceux qui aiment. Et ce que je décris aussi, c'est une société où il n'y a plus d'amour, ce que j'ai appelé le désamour, où il n'y a plus d'amateurs, il n'y a plus que des consommateurs. Le consommateur n'aime rien. Le consommateur, c'est un frustré. Il n'est jamais content. Dès qu'il a consommé quelque chose, il est déçu, parce que c'est fait pour ça en plus. Parce que par exemple, l'iPhone est fait pour conduire à l'iPad.
Eh oui.
Donc, il est fait pour être obsolète. Il doit toujours être remplacé, parce que le capitalisme consumériste a absolument besoin de cela. Et du coup, il ne permet pas le développement de pratiques. Quand j'étais directeur de l'IRCAM, je discutais souvent avec les compositeurs par rapport aux innovations formidable que l'IRCAM fait dans le domaine de l'organologie, des instruments de musique. Et un problème qui revenait très souvent, c'était le problème de tout ça, c'est que ces instruments ne sont pas stables. Moi, la Rodman, par exemple, quand j'écris pour le violon, eh bien, je m'appuie sur 3 ou 4 siècles de pratique instrumentale des modes de jeu, et donc de travail des interprètes. Avec vos machins, ça bouge tout le temps, on n'a pas le temps. Voilà. Alors, ça, c'est un très très grand problème de la société consumériste, qui est une société qui n'arrête pas de rendre obsolète absolument toute chose. Étant donné que le monde culturel, ce qu'on appelle le monde culturel, qui est un mot que je n'aime pas beaucoup, mais disons le monde de l'art plutôt, la vie de l'esprit, même pas simplement de l'art, la philosophie, la géométrie, la littérature, la poésie, etc., étant donné que ceci produit en principe des inconsommables, on n'imagine pas qu'une œuvre d'art puisse être consommable, parce que ce qui fait qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art, c'est qu'elle s'éternise en quelque sorte, elle sort du temps. C'est quelque chose, elle n'œuvre cette œuvre que dans la mesure où elle se libère du temps de son apparition. Dans la mesure où les industries culturelles ont progressivement soumis toute l'activité culturelle et esthétique, je dirais, à une consomption, pas simplement une consommation, quoi, téléguidée par l'obsolescence des produits qu'il s'agissait de promouvoir, il y a un malaise énorme dans la culture, je reprends le titre de Sigmund Freud, hein, malaise dans la culture, qui s'est développé. Et ce malaise dans la culture qui s'est développé, qui a produit ce que j'ai appelé quelque part le blues du consommateur, parce que depuis au moins 10 ans, le marketing sait très bien que les consommateurs consomment par défaut, c'est-à-dire qu'ils consomment parce qu'ils n'ont plus rien d'autre que la consommation pour exister, mais ça ne les rend plus heureux. Autrefois, ça les rendait heureux, mais plus maintenant. Eh bien, il y a quelque chose qui ne tourne plus rond du tout, et l'être ensemble est ruiné. Parce que par ailleurs, ce qui fait l'être ensemble, c'est le fait de sentir ensemble. Quand je dis ça, comprenez-moi bien, je ne veux pas dire qu'il faut que les Corses restent avec les Corses, les Bretons avec les Bretons, les Arabes avec les Arabes. Non, pas du tout, parce qu'on peut sentir ensemble, par exemple, quand on joue de la musique corse, justement, je prends cet exemple-là, on peut sentir avec des gens qui font de la musique du Burkina Faso. Parce que, précisément, l'art est capable de dépasser les frontières. Mais en revanche, si on n'a pas un rapport à l'œuvre, qui est un rapport d'amatora et non pas de consommation, alors le monde disparaît. Parce que le monde, c'est un être ensemble qui est constitué par ces façons-là de sentir. Et à ce moment-là, ce qui apparaît, quand le monde disparaît, qu'est-ce qui apparaît? C'est l'immonde. Et donc nous sommes en train de vivre l'apparition de l'immonde. C'est pour ça que beaucoup de gens se tournent, par exemple, vers l'extrême droite, qui exprime ce sentiment. Alors on dit, ah, ces gens sont immondes, les gens de l'extrême droite. C'est possible. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que s'ils sont immondes, admettons qu'ils le soient. Moi, je ne le dis pas, parce que je ne veux pas dire que les gens sont immondes. En tout cas, si jamais ils l'étaient, c'est parce que le monde est immonde.
Vous le pensez comme un symptôme.
Ils sont un symptôme, exactement. Donc il faut arrêter de les stigmatiser, de les traiter d'êtres immondes, pour commencer à se demander qu'est-ce qu'ils disent. Ils disent quelque chose. Alors ce qu'ils disent, il faut l'interpréter. C'est exactement comme un symptôme. Le symptôme, et en particulier le symptôme psychologique, sert à masquer la cause du symptôme. Donc dans le cas en particulier du symptôme psychique. Mais il faut savoir interpréter cela. Et donc, parmi mes clés d'interprétation, il y a ce que j'appelle la misère symbolique, c'est-à-dire la désymbolisation en réalité. L'être humain actuel qui tend vers l'inhumain, ou qui a l'impression d'être inhumanisé, d'être privé de sa dignité, de son humanité, et ça peut le rendre très très méchant, eh bien, c'est un être qui ne peut plus symboliser, il ne peut plus participer à la vie symbolique. Pour une raison très précise, c'est qu'au XXe siècle, s'est développée une industrie culturelle qui a été une industrie de la production des symboles. Or, les symboles, que veut dire symbole ? Eh bien, un symbole, c'est ce qui est partagé. C'est ça que veut dire symbole. Le symbole, c'est ce que l'on partage. Ça veut dire aussi que dans le monde symbolique, il n'y a pas les émetteurs d'un côté et les récepteurs de l'autre. Il n'y a pas les producteurs d'un côté et les consommateurs de l'autre. Dès qu'on commence à transformer le symbolique en un produit de consommation, on le désymbolise. À partir du moment où il y a une désymbolisation, il y a une perte d'autorité, il y a une perte de reconnaissance et il y a une montée de la violence. Ça ne peut pas être autrement. Ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre, en particulier en France et en Italie.
Bernard Stiegler, on va devoir s'arrêter là pour cet entretien. Je vous remercie et j'invite aussi les auditeurs à aller fouiller dans vos ouvrages et voir un peu l'autre versant, non, puisque votre pensée est toujours pharmacologique, et de voir comment aujourd'hui, non, est à l'œuvre des processus qui reconstituent la filia, qui reconstituent le vivre ensemble, notamment au travers de ce que vous appelez, non, ou ce que vous souhaitez, ou ce que vous voyez venir comme une économie de la contribution où il y a un réinvestissement dans le symbolique.
Oui, et ça se développera à la condition que la puissance publique nationale ou européenne porte cela. Si on ne cherche pas à développer un modèle européen de cela, eh bien, ce sont les quatre géants américains qui sont hyper consuméristes et non pas contributifs, qui imposeront des modèles à travers le numérique encore plus consuméristes qu'hier.
C'est là où on comprend que la guerre économique est aussi une guerre esthétique. Merci beaucoup, Bernard Stiegler.
Merci à vous et à bientôt.
À bientôt. L'été, on décapitalise.
C'est la question du cap.